Nous sommes le mardi 25 janvier 2022. Voici les titres de votre journal local avec Christine Rode. Bonjour Christine.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est confirmé, le pass vaccinal entrera bien en vigueur en Polynésie début février. Nous écouterons le directeur du JRCC nous parler des voies maritimes recommandées dans les Tuamotu, puis nous découvrirons le nouveau Beachcraft de la compagnie Air Archipel.
Et on commence avec le pass vaccinal qui arrive au Fénois.
Oui, le haut-commissaire Dominique Sorin l'a confirmé hier soir sur TNTV. La Polynésie va suivre la métropole en transformant le pass sanitaire en pass vaccinal vers le 7 ou le 8 février. Pas vraiment de surprise puisque c'était aussi le souhait annoncé du président Édouard Fritsch. Pass vaccinal qui entrera en application dans les mêmes lieux que le pass sanitaire actuel. Spectacles, concerts, discothèques, foires et salons de plus de 50 stands ou encore liaisons aériennes ou maritimes depuis Tahiti vers les îles. Les non-vaccinés ne pourront plus présenter un test de dépistage négatif pour accéder aux lieux concernés. Seul un schéma de vaccination à jour avec une troisième dose 4 à 7 mois après la seconde ouvrira l'accès à ces établissements ou services. En revanche, c'est le pass sanitaire qui restera en application pour les consultations et les visites programmées dans les établissements de santé. Les urgences restent accessibles sans limitation. De même, les 12-16 ans pourront continuer à présenter un test négatif pour accéder à l'ensemble des lieux concernés par le pass.
Et Christine, on fait un petit point Covid.
138 nouveaux cas détectés et 352 cas actifs de Covid. Ce sont les chiffres en légère hausse du dernier bilan épidémiologique de la direction de la santé. Aucune hospitalisation en cours, même si la filière Covid du CHPF accueille un patient positif. Sa prise en charge porte sur une autre pathologie. 77,2% des 12 ans et plus ont aujourd'hui un schéma vaccinal complet en Polynésie.
Les voies maritimes recommandées, mais comment ça marche?
Le haut commissaire Dominique Sorin et les responsables du JRCC ont fait le point ce lundi sur ces nouvelles voies et la zone à éviter dans les Tuamotu où 2500 navires passent annuellement. Pour prévenir les accidents et les échouages qui se sont multipliés ces dernières années, les navires internationaux de plus de 15 mètres qui transitent par la zone sont fortement encouragés depuis décembre dernier à emprunter deux couloirs de navigation, les voies maritimes recommandées et à éviter totalement la zone centrée sur la biosphère de Fakarava. L'essentiel de ce trafic maritime est constitué par les cargos qui traversent le Pacifique entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, dont certains relâchent à Papeete, comme l'explique Antoine Ferry, le directeur du JRCC.
C'est l'axe principal qui nous intéresse, c'est tous ces bateaux qui viennent de Panama, qui vont vers la Nouvelle-Zélande, Nouméa ou autre, mais qui passent par chez nous pour déposer des marchandises et qui vont traverser, s'ils le font vraiment dès le début, ils se dirigent vers ces voies recommandées, ils ne perdront pas de temps pour venir sur Papeete. Je peux vous montrer un exemple d'un navire qu'on a dérouté vendredi, juste on l'a fait sortir en tous les cas de la zone Fakarava et on l'a amené beaucoup, beaucoup plus loin.
Si les transporteurs maritimes sont faciles à joindre et réactifs, il n'en est pas toujours de même avec les navires de pêche qui sont parfois extrêmement difficiles à joindre directement.
L'autre vigilance que l'on a, c'est les plus petits navires qui sont finalement notre priorité une de tous les jours, c'est-à-dire les navires de pêche. Et là, on a un travail avec leurs représentants ici pour les encourager à ne plus passer au milieu des îles qui passent par la voie recommandée ou par l'extérieur et qui ne traversent plus. On les encourage à passer plus sud. Encore faut-il arriver à les joindre, ce qui n'est pas évident. C'est pour ça que les agents maritimes qui s'occupent des navires de pêche sont des points de contact pour nous essentiels. Et on l'a vu avec l'accident du mois de juillet, c'est que le navire, on n'arrivait pas à le joindre.
Le dernier échouement, voilà,
il a fallu qu'on joigne son correspondant ici qui a joint l'armateur en Chine pour arriver à avoir le navire. Parfois, c'est très, très compliqué.
Ces recommandations sont un instrument juridique incitatif et non pas obligatoire, même s'il est toujours possible, en cas de risque identifié, de contraindre un navire à emprunter ses voies. L'article complet de Caroline Perdry est à retrouver sur radio1.pf.
Et puis un rapide rappel du JRCC.
Oui, la balise verte de la passe du port de Papeete s'étant décrochée et échouée sur le récif dans la nuit de dimanche à lundi, le JRCC appelle les bateaux entrant ou sortant à la prudence. Une équipe du port autonome doit la refixer dans la journée d'aujourd'hui.
Il est 7h34, les matériaux de construction n'ont pas fini de subir la crise.
Radio 1 a interrogé Gérard Sioux, directeur général d'une des principales sociétés d'importation du Fénois. Certains matériaux, comme les composants ou éléments en fer, étaient déjà difficiles à obtenir. De par leur nature très variée, leur production a un coût en énergie élevé. Et comme ils proviennent de plusieurs pays, leur logistique de transport est plus importante. Et cette année, les choses ne vont, semble-t-il, pas se simplifier. Gérard Sioux au micro de Marao Biré.
Je prends l'exemple du ciment. Et les prochaines augmentations, elles vont être de plus de 25% sur le prochain arrivage. Malheureusement, parce que les prix achetés il y a 2 ans, les contrats aujourd'hui prennent fin. Donc les nouveaux contrats, quand ils arrivent, ils ont effectivement été ajustés. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les prévisions? Cette crise va petit à petit, à mon sens, trouver un peu un équilibre. Et donc d'aller trop loin en projection d'achat, c'est peut-être pas une bonne chose. Et peut-être aussi privilégier le bois de la construction. production locale des bois ou des matières qui pourraient être aujourd'hui soit en recyclé, soit travailler un peu plus dans une économie un peu endogène.
Résultat, de nombreux chantiers sont retardés de plusieurs mois, voire annulés chez les particuliers. Pour cause, ces deux dernières années, le prix du transport de matériaux vers la Polynésie a augmenté de 20 à 30% et les délais ont été multipliés par deux en moyenne, surtout lorsqu'il s'agit d'importations provenant d'Asie.
Un nouveau Beechcraft pour Air Archipel.
Il avait été commandé fin 2020, construit dans les usines Textron dans le Kansas, puis convoyé en Californie afin d'être préparé pour sa traversée. Il a encore fallu attendre les sésames administratifs et des conditions météo favorable, mais il est enfin arrivé hier après-midi sur le tarmac de Faa'a. Ce tout nouveau Beechcraft 260 Air Archipel est l'une des premières compagnies au monde à s'en équiper. L'objectif, améliorer le service des Vassan qui compte pour près d'un millier d'heures de vol par an. Écoutez la directrice générale d'Air Archipel, Cécile Savalli, au micro de Charlie René.
C'est un Beech 260, donc c'est une nouvelle génération. On avait jusqu'à présent des Beech 200. Il a une porte cargo qui permet de faciliter l'embarquement des civières, l'embarquement de personnel médical. C'est avec de l'avionique moderne, avec des équipements beaucoup plus performants et qui rendra un meilleur service aux populations, notamment pour les évacuations sanitaires. Et surtout, effectivement, un avion récent, parce qu'un avion, au bout de 7 ans, il y a des problèmes de maintenance et du coup des problèmes de disponibilité. Et ça commençait à devenir difficile de rendre le service aux évacuations sanitaires.
Le nouvel appareil ne devrait toutefois entrer en opération qu'en avril. Le temps pour la filière d'Air Tahiti d'obtenir des certifications, de renforcer ses effectifs et surtout de les formé sur ce nouvel avion. D'ici là, un second Beechcraft 269, lui aussi, devrait atterrir à Tahiti. Équipé de façon plus classique, il devrait assurer la desserte d'Apataki, mais surtout développer l'activité de vol à la demande. Un véritable redécollage pour Air Archipel, qui avait connu un plan social l'an dernier.
Et c'est l'outil dont on avait besoin pour fiabiliser la disponibilité de la flotte, pour être au rendez-vous, pour notre mission première, comme je disais, les évacuations sanitaires, et puis pour participer au développement du tourisme en Polynésie et contribuer au marché de vol à la demande qui redécolle partout dans le monde, parce que justement, il y a un certain type de clientèle qui ne désire plus voyager groupé avec d'autres passagers, donc c'est un marché en plein développement partout dans le monde, et il faut que la Polynésie soit elle aussi au rendez-vous de ce type de marché et de ce type de clientèle.
Et à noter que parmi les trois Beechcraft 200, les anciens modèles de la flotte d'Air Archipel, deux vont être vendus à l'étranger. Le troisième sera conservé pour servir de remplaçant pendant les phases de maintenance ou en complément si la demande en Evasan ou en charter est trop forte. L'article complet est à retrouver sur radio1.pf. Et puis on finit avec du sport. Keoni Terorotua est devenu le premier Polynésien à remporter un combat au championnat du monde amateur de MMA qui ont lieu depuis ce lundi aux Émirats Arabes Unis. Rei Watanabe et Michael Lisan, malgré leur défaite, n'ont pas démérité. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera avec le Flash de 8h.
Merci beaucoup, Christine. À tout à l'heure.